Monique Simard est une figure incontournable du Québec contemporain, syndicaliste, femme politique, productrice et gestionnaire culturelle. Elle vient tout juste de recevoir un doctorat honoris causa de l'Université du Québec à Montréal pour son engagement exceptionnel. Et nous recevons donc cette femme exceptionnelle, Monique Simard. Bonjour.
Bonjour.
Je vais demander de vous approcher du micro, Monique, ou vous approchez du micro. Oui.
Bonjour.
Bon, alors, le doctorat honoris causa de l'UQAM vient couronner un parcours immense parce que vous avez été vice-présidente de la CSM, des grands chantiers culturels. Si vous deviez identifier le fil conducteur de la valeur fondamentale qui vous a amené à tous ces engagements-là, ça serait quoi?
Bien, je pense que vous utilisez le bon mot, engagement. C'est-à-dire que, bon, très tôt dans ma vie de jeune adulte, j'étais tout de suite passionnée par des idéaux de justice sociale et en particulier l'égalité des femmes. Mm-hmm. Hein? Moi, je suis de la génération qui précède les lois d'équité salariale, qui précède le droit à l'avortement, etc. Et donc, je me suis rapidement engagée dans ce combat parce que c'est un véritable combat. Et je pense que c'est ce qui m'a guidée après tout le reste de ma vie, c'est-à-dire de constater qu'il y a des injustices et puis que si on veut les éliminer, eh bien, il faut s'engager, les combattre avec d'autres, jamais seul, avec d'autres, parce que je crois beaucoup, beaucoup au collectif aussi. D'ailleurs, quand on regarde mon parcours, le syndicalisme, par définition, c'est de l'action collective, mais par la suite aussi, que ce soit le bref passage en politique, même en culture. Aussitôt que je suis arrivée dans le domaine de la culture, en plus particulièrement de la production de documentaires, je me suis engagée, j'ai été élue à l'Association des producteurs, je suis devenue présidente de la Cinémathèque québécoise. Donc, bref, l'action collective, l'engagement.
Moi, j'aimerais parler aussi du fait que j'ai l'impression que vous étiez une briseuse de plafonds de verre. C'est possible? Parce que je pense à la CSN, le syndicalisme à l'époque, c'était un milieu de gars, là.
Très, très masculin. quand j'arrivais à la CSN, bon, d'abord, moi, j'étais pas une élue, j'étais employée. Employée. Puis d'ailleurs, c'est un peu un hasard. J'avais croisé des gens qui m'avaient dit « Oh, il y a des emplois temporaires, est-ce que ça ne te tente pas d'aller postuler? » Bon, oui, je suis assez insouciante. Et pourquoi pas? C'était une job de 4 mois, j'ai resté 19 ans. on était des conseillers techniques. Alors, il devait avoir, mettons, 200-300 gars, puis on était 5 filles. Alors, déjà, on était... Puis évidemment, on était toutes jeunes, puis assez cute. Alors, disons que nous, le harcèlement sexuel, on connaît ça.
Ah, mon Dieu, ça...
Mais c'était un concept qui n'était même pas reconnu à l'époque. Il a fallu se battre pour le faire reconnaître que ça pouvait exister. Alors, et rapidement, donc, avec quelques collègues, avec quelques femmes, on a formé des comités, hein, c'était notre activité en dehors de nos vrais jobs qu'on avait.
Ah, oui.
Et on a fait avancer nos dossiers. On est allé voir le président de la CSN de l'époque, Marcel Pépin, les plus anciens vont s'en souvenir. Puis il nous a écoutés. Et il a trouvé que c'était pas fou ce qu'on disait. Et donc, on s'est inscrit. Moi, je suis vraiment une personne de mon époque. Je me suis inscrite dans la mouvance aussi de l'époque. Et oui, on a fait des batailles. Oui, ça demandait une certaine détermination. Puis... un peu du front tout le tour de la tête, dans certains cas. Mais on a gagné, on les gagnait, nos batailles. Et ça, c'est extrêmement valorisant. Et une fois que tu as gagné une bataille, ben, tu es prête à en faire une autre. Puis si tu gagnes une deuxième fois, tu continues comme ça. Et je suis fière de dire aujourd'hui que le Québec, particulièrement au chapitre des droits des femmes, est un des pays les plus évolués sur la planète. On a des statistiques qui ressemblent à celles des pays scandinaves, qu'on cite souvent... En exemple, je ne veux pas dire que tout est réglé, loin de là, parce que je suis très, 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 très pragmatique. Je vois bien qu'il y a bien des choses à régler. Mais quand même qu'on a fait des progrès immenses. Et puis, je suis fière d'avoir appartenu à cette génération de femmes qui a mené cette bataille.
Je vais changer un peu l'idée que j'avais pour aller de l'avant avec la ligne de cette entrevue. Je vais tout de suite aller à l'avenir ou à la situation présente. Parce qu'il y a eu des grandes avancées. Vous l'avez nommé, équité salariale, congé parentaux, retour des garderies publiques, l'avortement. Mais quand on regarde la société actuelle au Québec, alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Je la regarde évidemment du point de vue de mon âge et de ma génération. Donc, il faut faire très attention parce qu'il y a un biais qui vient avec ma perspective. J'ai la chance de collaborer avec beaucoup de jeunes personnes, beaucoup plus jeunes que moi. Hein? Dans certains cas, je suis assez vieille pour être leur grand-mère, mais littéralement. Et j'aime beaucoup les écouter parce que leur regard sur la société est évidemment différent du mien. Il est, sur certains aspects, plus optimiste, sur d'autres, moins. Alors, j'essaie un petit peu de faire l'équilibre des choses. Non, je trouve que ça ne va pas bien. En fait, de façon générale, sur la planète, je veux dire, ça va mal. Les guerres, l'omnipuissance des grands de la technologie. Il y en a qui parlent même de technofascisme parce qu'ils mènent le monde, ils mènent les États. Ça me trouble, ça m'effraie beaucoup. Bon, le Québec. Alors, la société québécoise, pour bien des raisons, va bien pour des choses. Vous savez, on a la mairesse de Montréal qui est arrivée ici comme jeune enfant, réfugiée chilienne. On a une chef de parti politique, Ruba Gazal, qui était une jeune réfugiée palestinienne. On a deux chefs de parti politique qui sont ouvertement des hommes gays. Et c'est comme ça, et on n'en fait pas de cas. Pour moi, ça prouve d'une société qui est d'une tolérance et d'une ouverture extraordinaire. Alors, c'est aussi ça, le Québec. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout va bien au Québec. Il y a un certain nombre de choses qui sont troublantes au niveau du développement économique et surtout des outils qu'on ne possède pas pour contrôler notre avenir. Alors ça, je regarde un petit peu le comportement encore de la place qu'on veut faire ou qu'on ne veut pas laisser au Québec, au sein du Canada. Et ça, je trouve que c'est déplorable, ça me déçoit. Il y en a qui ont essayé la troisième voie, je pense, avec beaucoup de sincérité et de candeur. Après 8 ans, je pense que ça n'a pas fonctionné.
Alors, j'aime beaucoup parce que vous me ramenez à ma ligne la ligne d'entrevue que j'avais en tête. Parce que on vient de comprendre que Monique Simard est aussi une souverainiste.
Depuis toujours,
qui a fait un bref passage politique. Ça n'a pas été très heureux, ça, je pense.
Non,
pour vous,
non, hein? Pas du tout. Ça n'était vraiment pas ma place. Mais j'ai quand même appris beaucoup de choses. Mais de ce bref passage, ce qui a été le plus important, c'est de diriger le Parti québécois pendant l'année référendaire.
Ouais.
Alors évidemment, ça, c'est une expérience hors du commun, assez extraordinaire. Moi, je suis devenue souverainiste relativement jeune, je dirais. À la fin, j'étais là à la fondation du Parti québécois en 68, donc c'est pour vous dire un petit peu la perspective. Et puis, évidemment, comme tout le monde, on se pose régulièrement des questions, mais il n'y a rien à ce jour encore qui m'a convaincue du contraire. Et particulièrement en ce moment. Certains vont vous dire que ce n'est pas la bonne option, puisque pour les raisons que je viens de vous dire, au plan géopolitique, à cause de l'immensité des grandes puissances d'aujourd'hui, au contraire. Je me dis, c'est peut-être, non, peut-être pas le cas. Moi, j'ai l'occasion d'aller en Norvège très souvent, parce que mon fils habite là. Et je suis capable de regarder comment ce petit pays, 5,5 millions d'habitants, c'est quasiment la moitié moins d'habitants que le Québec, se débrouille très bien et peut faire ses choix. Et malheureusement, au Québec, si on pouvait faire tous nos choix, on s'en contenterait, évidemment, d'être dans le Canada, mais on ne peut pas faire. Juste au point, on a la souveraineté culturelle, par exemple, hein? Et on sait que c'est, dans notre cas, existentiel. Parler notre langue comme nation, c'est une question identitaire profonde. Non, on n'en a pas tout le contrôle de tous les outils. On n'a pas le contrôle sur les télécommunications. En n'ayant pas le contrôle sur les télécommunications, on ne peut pas faire nos propres règlements par rapport aux géants du web. Alors, pour ça, me ramène encore à me dire que je pense que c'est encore la meilleure option.
Mais effectivement, après le passage politique, vous êtes allé plus dans le milieu culturel. Vous êtes encore très active là-dedans. Est-ce que pour vous, le culturel, c'est une autre voie d'émancipation pour le Québec et pour les femmes aussi, parce que ça fait partie
C'est certain que, bon, alors souvent les gens vont dire il y a une telle créativité au Québec, on est reconnu mondialement pour ça. Comment ce petit peuple en Amérique du Nord réussit à avoir tant de créateurs, à briller un petit peu sur toutes les scènes du monde, c'est vrai. Mais parce qu'on a besoin, c'est une question viscéral, existentiel. On a besoin de s'exprimer pour exister. Alors, et on le fait beaucoup à travers notre culture, en l'écrivant, par la musique, par le cinéma, bref, par l'ensemble des façons, des différentes expressions culturelles. Et moi, je me suis bien retrouvée là-dedans, mais dans un domaine qui était quand même pas loin de mon engagement social en production documentaire, parce que c'est là, en production documentaire, où on peut traiter de sujets socio-économiques, socio-politiques, bref, et même internationaux. Et donc, je me suis beaucoup investie là-dedans. J'ai produit beaucoup de femmes mm-hmm. et ou sur des sujets aussi relatifs à la condition des femmes. Et j'ai vraiment eu un plaisir immense à faire ça et connu très humblement un certain succès. Puis après ça, je suis devenue directrice générale du programme français à l'Office national du film. J'ai adoré ça. J'ai ouvert les studios de production interactive. Après ça, on m'a invité à postuler pour devenir PDG de la SODEC. Alors, non, j'étais bénie des dieux, là, vraiment, dans ce monde-là.
Puis vous ne ralentissez pas, là, vous êtes au partenariat du quartier des spectacles à Montréal.
Alors, j'en préside le conseil d'administration, le plus grand quartier culturel en Amérique du Nord, extraordinaire. 9 millions de visiteurs par année, 52 festivals par année. Bon, formidable, le quartier des spectacles. C'est un partenariat, c'est collectif encore. Voilà ma ligne directrice dans ma vie. On a 85 partenaires, autant des salles de théâtre que des grands orchestres, que des hôteliers, que des restaurateurs, bref, que la B&Q, que l'UQAM. Je préside aussi le conseil d'administration de la Vitrine culturelle, qui est vraiment une organisation qui est un outil numérique pour que le public québécois puisse rencontrer l'offre culturelle québécoise. Alors, quand on va sur le site de la Vitrine, il y a 10 000 activités culturelles partout au Québec qu'on peut découvrir. Ça, j'adore ça. Et puis, je préside également le Fonds québécois, le CA du Fonds québécois, qui est un fonds d'investissement réglementaire qui investit en cinéma et en télévision. Donc, bref, je suis encore très active, et ça me comble. Et ça me permet de fréquenter des gens plus jeunes aussi.
Ah, ça fait du bien, ça.
Et ça fait énormément de bien parce que ça nous force tout le temps à nous remettre en question, à regarder les choses sous un autre angle, de l'angle de d'autres générations, avec un œil neuf. Et ça, je me considère très chanceuse.
En tout cas, s'il y en avait une caméra ici, les gens pourraient voir encore la ferveur, la passion de Monique Simard, toujours, toujours passionnée. Je pense que ça aussi, c'est ce qui vous garde jeune.
Oui, bien, je pense qu'il faut être passionné. Il faut rester dans l'action. Alors, hier, j'étais avec des amis de mon âge et puis tout ça. Puis, je pense que c'est ça le secret, c'est que celle qui reste active, on ne pense pas à ces bobos dans ce temps-là.
On ne pense pas au tamalou de ce monde. On va devoir s'arrêter ici, Monique Simard. Merci infiniment d'avoir pris la peine de venir nous visiter en studio et félicitations pour ce doctorat honoris causa.
C'est un grand honneur pour moi de l'avoir reçu. Je remercie encore l'UQAM. Merci beaucoup.